Pavillon Nomade, le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis le studio de Pavillon Nomade, en présence de nos participants du jour, pour partager, échanger et réagir autour d'un thème proposé, sans oublier également nos chroniques phares, les rencontres de Marie-Claude, la Minute d'Elvio, et une toute petite nouvelle rubrique qui commence aujourd'hui, qui s'appelle Science-Fiction, proposée par Gabriel Zegna. On va avoir cette rubrique qui aura lieu une fois par mois. Elle va avoir aussi petit à petit son habillage sonore. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Alors Gabriel va prendre un micro, il commence déjà aujourd'hui la séance.
Je serai prêt pour la chronique.
Ben, ça fait plaisir en tout cas. Voilà. Bonjour Elvio.
Mais bonjour Jimmy.
C'est pas grave. Bonjour Elvio, merci, bonjour, ça fait plaisir. Jimmy. Et autour de la table, on a des habitués. Alors, on en a Johnny. Johnny qui est là. Bonjour Johnny.
Bonjour à tous.
On a une invitée aussi qui est très chère à mon cœur. C'est ma belle maman que j'appelle Mamoun, mais qu'on va appeler Bernadette ou Mamoun aujourd'hui.
Bernadette.
On est comme ça. Et on a un petit nouveau aussi aujourd'hui qui arrive, qui s'appelle Julien.
Mais bonjour à tous.
Et on a sa compagne qui est là aussi, qui est libre d'intervenir. Bonjour Marine.
Bonjour.
Je vois que tout le monde est prêt, que tout le monde est calé. Ça fait plaisir de voir. C'est parti Elvio.
C'est parti.
La Minute d'Elvio.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'introspection étant la trame du film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes. Inspirée de l'excellent livre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes, elle nous replonge au sein de placenta de notre chère mère et métaphoriquement nous fait nous considérer par être un dieu. Au sein de ce ventre, nous sommes un dieu tube qui absorbe les nutriments nécessaires à naître. Et qu'une fois nés, nous observons, nous enregistrons, les informations passent en nous et se stockent ou pas. Ce film est en fait l'interprétation de la petite enfance d'Amélie Nothomb, une sorte de mini-bio magique de la découverte du monde par une enfant qui se passe dans le Japon des années 60. Pour éviter de vous spoiler, je vais m'arrêter là dans la description. Petit bijou d'animation, Amélie et la métaphysique des tubes a pu voir le jour grâce aux réalisateurs Liane Chauhan et Maïlis Valad. Tous deux passés par l'école des Gobelins à Paris, ils se sont rencontrés sur le tournage du film d'animation Le Petit Prince de Mark Osborne, que je conseille également. Yan Chauhan avoue être tombé amoureux du roman d'Amélie Nothomb à l'âge de 19 ans. À la base, il n'était pas vraiment un féru de littérature. Il était plutôt tourné sur la pop culture, l'animation japonaise et les jeux vidéo. Mais quand il a lu cette histoire d'une petite fille qui se prend pour un dieu, il a eu ce fantasme de l'adapter. Des années plus tard, Lian Shou réussit à convaincre Maïlis Valad d'adapter le roman sur grand écran, et comme il l'a bien fait. Je vous souhaite un bon visionnage de ce superbe film et de découvrir également le livre. Vous pouvez commencer soit par l'un ou l'autre, la magie opère toujours.
La magie opère toujours. D'ailleurs, je remercie Pascal Vigolo à la technique qui fait qu'on a cet habillage à la radio et qui est toujours calé au bon moment. Bon, on a presque parlé de souvenirs d'enfance, là, Elvio.
Alors oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et je vous invite vraiment parce que le film est basé aussi sur une narration, en fait. Donc, comme dans le livre également. Et cette narration nous plonge en fait dans la méconnaissance de nos héros à 3 ans, en fait, parce que généralement, on ne s'en souvient pas. Et là, Amélie Nothomb, apparemment, a eu des souvenirs de cette période et elle les a mis... En roman.
Alors, je ne sais pas si autour de la table, des gens connaissent ce livre. Alors, Amélie Nothomb, Bernadette, vous connaissez, vous êtes de la Belgique, une artiste belge. Est-ce que vous connaissez déjà cet ouvrage ou pas ?
Je ne connais pas cet ouvrage, non. Mais en Belgique, elle est souvent interviewée et c'est quelqu'un de très particulier, de très connu dans, dans la romance, dans les romans. Elle a écrit beaucoup de romans, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très productive.
Très productive. Bernadette, oui. Vous avez travaillé pendant des années comme assistante sociale. Alors, on ne va pas remonter tout votre parcours professionnel, mais quand on parle de souvenirs d'enfance, si vous deviez avoir... Est-ce que vous avez des souvenirs de 0 à 3 ans? Est-ce que vous avez comme ça des souvenirs de 0 à 3 ans? Et s'il n'y a pas, quels sont vos plus premiers souvenirs d'enfance?
Oui, j'en ai beaucoup parce que je viens de la ferme. Et donc, voilà, je travaillais beaucoup dans les champs. Je suivais les adultes, étant l'aînée de famille. Et donc, mes souvenirs sont... J'aime le travail de la terre avec ça.
Alors, quel est le premier souvenir d'enfance à la ferme que, quand vous prenez le temps, là, hop, comme ça, rapidement, d'avoir en mémoire, ce serait lequel?
L'humeur de ma grand-mère.
L'humeur de votre grand-mère, c'est-à-dire... Ça, je vois beaucoup de gens qui tournent, qui sourient autour. Vous inquiétez pas, les souvenirs vont venir vers vous aussi. Ouais. Hein, mais... Quelle était cette humeur?
Ah, une humeur joviale, une humeur accueillante, bienveillante. Et voilà, c'est une personne très chouette. J'ai de très bons souvenirs.
Est-ce que je pourrais me permettre de dire que vous avez peut-être pris beaucoup de votre grand-mère?
Peut-être, oui, peut-être, sûrement.
Peut-être, oui.
Sûrement,
ouais,
parce voit, qu'avec parce... mes petits-enfants, j'essaye.
Les gens qui vous connaissent, voilà, les voilà. Gens qui vous connaissent pas, oui. Et qui vous voient pas. Là, c'est la première fois. Vous êtes déjà venu à nos émissions. C'était à la Bigouden il y a quelques années en arrière, pendant les fêtes de Noël, je crois.
De Noël.
Oui,
de
marché. Marché. Oui, c'était le marché. Oui. Oui,
le
oui.
Marché de Noël. Oui, oui, oui. Et vous êtes quelqu'un comme ça autour de la table. On vous a vu hésitante au départ. On m'avait dit, oh non, moi je pars. Et on voit cet œil pétillant, ce sourire, cette jovialité que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais que nous, on remarque ici. Merci en tout cas de vous prêter à cet exercice, Bernadette. Et on se souviendra que votre grand-mère était quelqu'un de jovial et que c'est comme ça un peu votre souvenir qui arrive. Pour les autres, je ne sais pas, je vois que Julien a pris le micro en main. Julien, quand on parle de souvenirs d'enfance, quel est le premier souvenir qui vient? Alors, de 0 à 3, je ne sais pas si vous en avez, mais quel est le premier qui viendrait comme ça à l'esprit?
Souvenir d'enfance, en parlant des grands-parents, ben forcément, ça touche. Donc, je dirais plutôt un souvenir de mon grand-père, qui savait que... Ma Madeleine de Proust, c'est le Nutella. Donc, il m'avait mis une pelle à tarte sur un gros pot de Nutella pour que je puisse déjeuner le matin. Mais j'ai pris le micro pour réagir à Bernadette, surtout, parce qu'elle a dit qu'elle venait de Belgique. Moi aussi.
Oh, vous
et
êtes
puis,
où
ben, justement, de la région des Ardennes, pas loin de la Gaume. Et pour Amélie Nothomb, elle a vécu, pour les épicuriens qui aiment les restaurants, aux Forges du Pont-d'Oie. Qui a été acheté par son arrière-grand-père et qui, finalement, pour ceux qui aiment les bonnes assiettes, aujourd'hui peuvent aller se régaler au plat canaille de la Bleue Maison qui est situé juste à côté. On peut même dormir dans la bâtisse d'Amélie Nothomb au château du Pont-d'Oie.
Alors, heureusement que l'émission est rediffusée dès ce soir. Sur le site pavillonnomade.ch parce que je vais pouvoir retenir cette adresse hein, parce que vous avez bien compris, j'ai marié une namuroise et puis je suis un bon épicurien, peut-être que je tiens ça aussi de mon beau-père et de ma belle-mère et c'est une table, les bonnes tables j'aime beaucoup, donc je pense qu'on va aller essayer peut-être Bernadette hein, en famille cette table-là. Gabriel,
oui,
bonjour.
Oui.
Amélie Nothomb, ça évoque quoi pour vous? Et puis, comme pour tous les autres, après, un petit souvenir d'enfance, le premier qui viendra.
Alors, Amélie Nothomb, moi j'adore. Donc, son premier roman que j'ai lu, c'était Stupeur et tremblement, qui est un roman sur... qui n'est pas un roman, qui est aussi une biographie, hein, comme pour La métaphysique des tubes, qui est un roman sur le mobbing et sur l'ambiance au travail dans le Japon des années, je pense, 70, 80, quelque chose comme ça. Et puis sinon, pour les souvenirs d'enfance, alors moi je suis né un peu plus loin d'ici, je suis né à Ajaccio en Corse du Sud et je pense que mes premiers souvenirs c'est le maquis sur place, les insectes, les animaux, la chaleur, etc. J'arrive pas à trouver un souvenir précis, mais c'est plus une ambiance globale où il y a les bruits, etc., qui reviennent. Dans le roman La métaphysique des tubes, c'est incroyable parce qu'elle se rappelle des goûts, de plein de choses. Il me semble qu'elle commence... Non, si je spoil, c'est dangereux.
Ce serait dommage parce qu'en fait, justement, le moment où elle commence, c'est là qu'il y a quelque chose de particulier.
On ne va pas créer de débat, on ne va pas spoiler plus.
Donc, je ne dirai rien.
Mais par contre, on va passer la parole à Johnny pour un souvenir d'enfance. Bonjour Johnny.
Bonjour, rebonjour. Moi, mon plus beau souvenir d'enfance, c'est les vacances scolaires quand j'en ai avec ma grand-mère Elisa, Elisa à Ouvrona, garder le bétail.
Eh ben, on voit que l'importance qu'ont nos aînés dans nos souvenirs. Hein. Vous avez parlé de Madeleine de Proust, où on a eu nos exemples autour de ça. Je ne sais pas si Marine, elle a envie de... Non, il n'y a pas d'obligation. Moi, quand j'essaie de réfléchir aussi pendant que vous faisiez vos souvenirs, j'hésite encore. Alors, je vais demander à Elvio d'abord, avant que je vous explique le mien, quel était votre souvenir d'enfance, le premier souvenir d'enfance que vous avez le plus loin, qui revient vraiment celui où dit, bah, ça, c'est le plus ancien que j'ai.
J'avais 2 ans. Mon papa vient d'Amérique du Sud, indien, amérindien, et il est venu en Europe avec son groupe qui s'appelait les Los Cactus Paraguayos. Et nous étions partis, ma maman et je étaient choriste et flûtiste dans le groupe, et nous étions partis à Acacias pour jouer un concert là-bas. Et un soir, ils sont sortis en me laissant dans la chambre d'hôtel. Ils sont allés à l'hôtel, il y avait un bowling. Et du coup, à l'époque, en fait, dans les hôtels, vous vous souvenez, on pouvait fermer depuis l'intérieur et rouvrir depuis l'intérieur des chambres, en fait. Il y avait une sorte de loquet comme ça. Et j'ai fugué. Et je me souviens d'un flash où le groom en fait m'a réceptionné. Donc je me souviens flou, mais voilà. Et on a fait tout l'hôtel pour essayer de retrouver mes parents en fait, qui étaient au bowling.
Voilà. Ben merci. J'aurais presque pu enchaîner sur la musique qui, d'après d'Elena, hein, qui s'intitule mauvais garçon, mais non, rien à voir. Hein. On est comme on est. Mais on va lancer gentiment la musique comme ça. Et puis je vous donne mon plus ancien souvenir. Alors ça reste un souvenir que j'ai. Est-ce qu'il est imagé, créé? Je sais pas. Comme vous le savez, on en a déjà discuté dans nos émissions. Je suis adopté d'origine colombienne. Et le premier souvenir que j'ai d'enfance, c'est un souvenir où je me vois dans une pièce où tout est noir. Et puis finalement, à l'entrée, il y a une petite alcôve avec cette petite gamelle où il y a du riz dedans. Et puis, il y a un petit feu qui crépite. Et dans cette pièce, il n'y a que seulement un grand lit. Un petit lit à ressort. Et sur le mur, il y a une petite araignée qui monte et que j'essaye de faire partir. Voilà le souvenir que j'ai de première enfance. On se retrouve dans quelques instants après cette magnifique musique de Elena.
Mauvais garçon, tiens les fils. C'est moi le pantin. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un. Mauvais garçon, je les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, il est 15h45, comme tous les jeudis en direct depuis notre studio. D'ailleurs, je fais déjà une petite aparté, jeudi prochain, le 30 mai, nous serons en balade. Et oui, parce que comme dit Pavillon Nomade, c'est en balade. Et on va avoir le 30 mai, c'est la journée à l'occasion, une émission spéciale à l'occasion de l'élévation du MAD de mai, qui sera en direct. On va se balader avec Elvio, on va faire des micro-trottoirs, on va essayer de vous faire vivre cette journée, cet après-midi extraordinaire, en espérant qu'il fasse beau. Et même s'il ne fait pas beau et qu'il pleut, on vous mettra du soleil dans les oreilles. Pour continuer notre après-midi, nous avons Julien qui nous a proposé un thème aujourd'hui. Rebonjour Julien.
Mais rebonjour.
Julien, vous avez décidé de parler de l'île Maurice.
Oui, j'ai décidé de parler d'île Maurice. Alors pourquoi déjà? Pour faire un petit peu l'amalgame aux vacances, quelque chose un petit peu exotique, sortir un peu de cette thématique de là où on est hospitalisé, de là où on est malheureusement peut-être dans une phase un tout petit peu plus difficile. Et puis j'aimerais ramener un petit peu de soleil au-dessus de Malévo. J'ai voulu parler de l'île Maurice, ma femme est présente à côté de moi, et puis c'est elle qui m'a fait découvrir cette île dont je suis tombé amoureux. Des deux, hein. De ma femme et de l'île.
Est-ce que c'était pendant le voyage de l'île Maurice ou vous étiez quand même déjà amoureux avant pour partir?
Oui, c'est quand même déjà un petit peu avant. Disons qu'elle a découvert ça avant moi parce que sa famille a beaucoup voyagé là-bas, puis elle me l'a fait découvrir. C'est une toute petite île qui fait à peu près 60 km de haut sur 40 de large, qu'on peut visiter malheureusement, même en voiture, on met plus d'une journée. On dirait que c'est rien du tout 60 km, mais alors là-bas, c'est vraiment un combat en véhicule.
Donc c'est un peu style nid de poule, pas goudronné ou comme ça ou bien...
Alors c'est goudronné.
Ah oui, ok.
Mais la conduite, elle est, si vous regardez un tout petit peu l'Inde...
Oui.
Ah, bah, okay. C'est un peu similaire, c'est mi-civilisé, mi...
C'est à celui qui sera le plus têtu.
C'est à celui qui aura le moins peur.
Et celui qui aura le moins peur, ouais. Alors, je vois que vous nous vendez déjà très bien l'île Maurice.
Ça, c'est juste pour la conduite. Sinon, les paysages sont magnifiques. L'eau est incroyable. Les poissons sont juste de couleur innommable. Et puis surtout, ça regorge aussi de culture, un melting pot de culture. Vous allez retrouver des hindous, vous allez retrouver des chrétiens, vous allez retrouver des musulmans. C'est magnifique parce qu'ils arrivent à fonctionner tous ensemble en respect. Et c'est pour ça aussi que je parlais de l'île Maurice.
Selon vous, qu'est-ce qui fait, parce que ça c'est intéressant, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à vivre avec autant d'ethnies différentes de manière ensemble? Est-ce que c'est parce que c'est petit? Est-ce que, parce que la population, c'est une population dense, malgré le parce que ça reste assez petit. Qu'est-ce qui expliquerait qu'ils arrivent à vivre comme ça?
Alors ils sont 1 million, dense.
Quand même.
Ça dépend les villes. Parce qu'il y a vraiment des endroits où il n'y a rien du tout. Ils arrivent à vivre comme ça parce qu'ils ont tout simplement envie de leur indépendance. L'île Maurice, c'est ça, justement. C'est ce mélange, c'est cette culture un peu diverse et variée, avec beaucoup d'amour, de la découverte. Vous êtes touriste, ils vont vous faire découvrir des endroits incroyables. Et puis, ils ont de plus en plus compris qu'il faut qu'ils respectent leur nature parce qu'elle est en train de souffrir avec les coraux, les bateaux, le tourisme de masse. Donc voilà, ils sont en train de comprendre aussi qu'ils doivent la protéger parce que c'est vraiment une merveille du monde.
Eh ben ça donne envie d'y aller. Puis c'est très respectueux de voir la préservation de ces régions-là, hein, parce qu'effectivement, le tourisme de masse, on a vu comme ça des régions dans le monde, oui. des régions qui sont maintenant malheureusement saccagées. Et pour tous ceux qui nous écoutent, quand vous partez en voyage, essayez le maximum de respecter le fonctionnement de l'endroit où vous allez, la nature, la propreté, la manière de vivre, les codes, parce que c'est pas j'arrive avec mes gros sabots, puis je m'impose. Elvio.
Julien, comme vous êtes un épicurien, j'aurais aimé savoir quel genre de cuisine vous avez découvert. Est-ce qu'ils ont mélangé les styles, donc indien, arabe, ou en fait ils ont gardé chacun leur code culinaire?
Alors au niveau cuisine, nous on a surtout fait des restaurants tels qu'on peut retrouver comme on en a ici. Mais la plupart de la cuisine mauricienne, elle est franchement retranchée comme la cuisine sri lankaise ou peut-être un petit peu indienne avec du curry. Il y a beaucoup, beaucoup de curry. Ils sont aussi beaucoup basés sur du poisson. Alors moi qui suis plus viande que poisson, ben je mange un peu moins style mauricien, mais j'aime beaucoup découvrir leur cuisine. Et puis surtout, ce qui nous a frappé avec ma femme, c'est la gentillesse des gens. C'est vraiment la gentillesse des gens. Si on peut se dire qu'ils ont une qualité, c'est qu'ils sont gentils, mais profondément gentils et puis tournés vers les autres.
Et au niveau, par exemple, des fruits, légumes et tout, il y a des exclusivités à l'île Maurice, en fait ?
En exclusivité ? Je vais passer le micro à ma femme.
bien essayé, Julien. On retentera un peu plus tard.
On va retrouver de toute façon la noix de coco, ouais. Ça c'est sûr. On va retrouver de la vanille à Maurice, on va retrouver de la canne à sucre. Par contre, la vanille, voilà, c'est un petit peu biaisé parce qu'il y en a aussi de la malgache qui est beaucoup plus fournie de Madagascar que de l'île Maurice. C'est très difficile à différencier. Mais sinon, vous allez retrouver aussi de l'ananas, la papaye, voilà, des fruits vraiment exotiques. Et puis, ils n'ont pas du tout les mêmes formats qu'en magasin ici.
Alors, ils n'ont pas les mêmes couleurs, ils n'ont pas les mêmes saveurs. Là, on va vous parler de choses douces, sucrées. J'imagine que ça doit être quand même très piquant. Moi, je ne suis jamais allé, mais est-ce que c'est piquant ? Parce que vous avez cité quand même des plats. Mais est-ce que c'est si piquant que ça quand on va là-bas ou pas du tout ?
Alors, tout est relatif quand on parle d'épicé, parce qu'il y en a qui disent que c'est piquant alors que ça l'est pas du tout, mais vous pouvez demander que ça soit pas épicé, vous allez vous retrouver quelque chose avec un plat qui peut brûler. Je dirais que c'est relatif, mais globalement, on arrive à manger sans trop épicer les plats, et tout en gardant les saveurs de là-bas.
Alors, j'imagine qu'en écoutant nos auditeurs, auditrices, mais peut-être les gens autour de la table, est-ce que ça vous a donné envie d'aller à l'île Maurice et surtout, est-ce que vous êtes déjà allé à l'île Maurice ? Bernadette. Alors.
Non, je ne suis jamais allée à l'île Maurice, mais j'avais une voisine qui était mauricienne. Et ce qui m'a frappée, c'est un petit peu ce que tu dis.
Julien.
Julien, c'est les épices. Ce sont les épices. Elle faisait très, très bien la cuisine. Et avec beaucoup de goût. Et c'est vrai qu'il fallait quand même y aller mollo. Hein. Il y a quand même des épices qui sont. Voilà.
Qui sont plus forts que d'autres.
Oui.
Gabriel.
Alors, moi, l'île Maurice, je ne connais pas, mais je connais en revanche vachement bien son voisin, l'île de la Réunion. Ah, oui. Et tout ce que tu décris, je reconnais dans la Réunion. Alors, le côté vraiment plein de communautés qui ont gardé leur caractère, qui vivent ensemble. Chacun a amené sa religion, ses épices, sa cuisine, sa façon de vivre. Et puis, ben, c'est vrai que moi, je suis fasciné de voir qu'ils vivent ensemble. Sans trop se poser de questions, bah ouais, tu fais comme ça, bah moi je fais comme ça, et puis voilà. Et franchement, c'est hyper agréable. Et je m'attendais bien à ce que tu finisses par qu'on finisse par parler de la nourriture, parce que vraiment, c'est vraiment délicieux. Après, par rapport aux épices, moi j'ai cherché quand la dernière fois que je suis allé, j'ai cherché les endroits les plus épicés possibles parce que j'aime bien. Et j'ai eu l'impression qu'avec le tourisme, les gens, c'était de plus en plus dilué. On avait peur de tuer les touristes. Mais on trouve encore avec des restaurants indiens, des endroits où il faut faire attention. C'est dangereux ce qu'il y a à table. Il faut faire attention.
Oui, bah, j'imagine qu'il y a des piments quand même. Alors, j'avertis aussi peut-être nos jeunes auditeurs qui nous écoutent. Hein. J'ai vu, en parlant d'épices, des challenges passés. Ça s'appelle, je ne sais pas exactement le nom du challenge, mais c'est à celui qui arrivera à manger le plus de piments les plus forts au monde. Je rappelle qu'il y a des gens qui en sont morts. Hein. Il y a quand même des risques quand même de manger trop épicé. Donc attention, s'il vous plaît. C'est un peu comme tout, c'est avec modération. Et puis, il faut aller peut-être aussi de manière progressive. Hein. J'imagine si on mange un piment, on n'a pas l'habitude de manger un piment rouge directement. J'imagine que ça va être compliqué, Julien.
Oui, je ne suis pas forcément lié à manger très pimenté comme ça de prime abord. Et puis, si je peux revenir sur un petit conseil pour l'île Maurice, beaucoup partent souvent à cet endroit pour marquer un événement, que ça soit un mariage, donc voilà, passer une semaine de noces, découvrez l'île Maurice par vous-même, louez un Airbnb, prenez une petite voiture, osez découvrir, parce que si vous allez dans un hôtel, vous allez être coincé à un endroit et faire exactement les choses des touristes. C'est peut-être ça qui est un tout petit peu dommage. Découvrez par vous-même, c'est une très belle île.
Ah ben là, en tout cas, vous nous avez donné envie d'aller la visiter. Et surtout, je trouve très intéressant ce que vous dites, aller découvrir la population. Les gens ne restaient pas. Le cœur même, l'essence même du pays. Elvio.
Du coup, vous nous conseillez de prévoir combien de semaines pour pouvoir profiter pleinement de l'île?
Alors la première pour déconnecter de votre travail. La deuxième pour se dire « Ah, on est en vacances ». Et puis la troisième, juste pour le plaisir.
Pour dire non, je ne veux plus repartir. Voilà. Pour exactement. Dire je ne veux plus repartir.
Et financièrement, vous pouvez nous donner un petit budget comme ça
Si vous voulez être confortable par personne adulte, prévoyez 4 000.
Ah ouais. Pour trois semaines.
Exact.
Voilà, ok.
Ah ouais, non, ça fait... Mais j'imagine, c'est comme tous les budgets quand on part dans d'autres pays, hein, ça demande quand même un investissement. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est les bonnes périodes pour partir aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, c'est un peu malheureux.
Je pense qu'on peut rajouter quelques milliers de francs à la facture, hein, c'est malheureux. Oui. Hein, mais c'est vrai, d'ailleurs, on a une petite pensée pour tous ceux qui vivent à l'heure actuelle dans les conflits, dans le monde entier. Oui. Parce que c'est vrai que quand on va dans un pays visité, on respecte, comme on a dit tout à l'heure, mais petite pensée pour tous ceux qui sont malheureusement aujourd'hui dans des conflits et puis qu'on espère que les choses vont se régler rapidement et pacifiquement le plus vite possible.
Vous pouvez attendre la période d'octobre à avril. Il y a des vols en direct depuis Genève qui sont normalement abordables si vous les prenez bien à l'avance. Alors aujourd'hui, avec le conflit lié au pétrole, ça risque d'être un peu compliqué d'avoir des tarifs abordables, mais soyez attentifs.
Oui. Je me disais tout à l'heure, on parlait de l'île de la Réunion. Est-ce que l'île Maurice est aussi une île volcanique? Parce qu'il me semble qu'à l'île de la Réunion, d'échange avec ma femme, il y a un volcan où les gens vont visiter. Je ne sais plus le nom que ça a, le Piton de la Fournaise. Est-ce qu'à l'île Maurice, vu que ce n'est pas très loin, est-ce que c'est une zone volcanique?
Ce n'est pas une zone volcanique. Le seul point montagneux, c'est le Morne, entre 500 et 600 mètres de haut. Mais il n'y a pas de volcan. Il faudrait vérifier, mais non.
Ah, en fait, c'est parce que vous vouliez retrouver le plat pays qui était le vôtre, c'est
exactement.
Ça
exactement.
Après, moi, il me semble que ça, construction de l'île, elle est d'origine volcanique, mais c'est plus actif actuellement comme ça l'est sur le Piton de la Fournaise.
C'était l'origine de trous au cerf, d'après ma femme, qui est un cratère volcanique situé sur l'île Maurice.
Ok, mais alors plus en activité. En tout cas, ce qui est en activité, c'est nos échanges. Merci Julien pour ce bon moment de partage autour de l'île Maurice. Vous aviez proposé une petite chanson de Coldplay qui s'intitule Fixio, avec une petite dédicace.
Une dédicace à ma femme et mon fils, parce que depuis la naissance de mon fils, il est né sur cette chanson. Et on vit justement ces voyages à l'île Maurice sur le rythme de cette chanson.
D'ailleurs, il était... quel âge a votre fils ?
3 ans et demi.
3 ans et demi, et le voyage, c'était il y a...
Il en a déjà eu 4.
Ah, d'accord. Bon, bah voilà.
Ça, il en fait. A déjà eu 4.
Ouais.
When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in... Tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it
Fix You de Coldplay, magnifique musique que je ne connaissais pas. En tout cas, elle m'a bien fixé dans certains souvenirs. D'ailleurs, on a continué en off de parler un petit peu de cette vie et de cette faune sur l'île Maurice. Très intéressant. On retrouve les rencontres de Marie-Claude. Chaque jeudi, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévaux. Aujourd'hui, place au dernier épisode de la rencontre avec Éric Giraudet. Éric est un infirmier ici à Malévaux et voici comment il perçoit les gens qu'il rencontre.
Les rencontres de Marie-Claude.
On est en face de personnes qui n'ont pas du tout la même perception que une population un peu plus standard, mais qui ont une perception souvent beaucoup plus fine, qui sont habitués à parler d'eux, à parler de psychisme, donc qui se connaissent très très bien, qui connaissent très bien, même s'ils sont en difficulté, très bien le fonctionnement humain. Donc on est en contact avec des personnes qui sentent énormément les choses. Moi j'ai pu constater que bon, il y a des jours où on arrive, on est moins avenant, on a moins la pêche, ou voilà, où on a une difficulté en tête, et puis tout à coup, en face d'une patiente ou d'un patient, cette personne nous renvoie cette difficulté, mais comme si elle lisait dans nos pensées. C'est impressionnant. Alors moi, j'attribue ça aux phéromones, c'est-à-dire quand on est dans un état d'esprit, on oublie qu'on est des animaux, puis qu'on dégage des phéromones et qu'on les sent. On sent aussi les phéromones des autres. Et qu'inconsciemment, on est alerté par ces phéromones. Toutes sortes, hein, phéromones de peur, de violence, de domination, de soumission, de joie, de bienveillance, de tristesse, etc. Donc l'expression indirecte de nos émotions, elle est perçue par ces personnes-là. Beaucoup plus que dans la société, parce que c'est aussi des personnes qui sont beaucoup plus attentives. Je pense que la société gagnerait à être plus attentive, gagnerait à recevoir des enseignements de la part des personnes soignées en psychiatrie. Parce qu'il y a beaucoup plus de finesse dans la perception du quotidien et de qui on est en tant qu'humain. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui me nourrit énormément. Et en plus, bah, quand on essaie, je ne dis pas que je fais toujours juste, hein, mais quand on essaie de faire le maximum pour aller dans le bon sens, aider les personnes, essayer de se remettre en question, essayer de réajuster régulièrement, bah, on a toujours un retour sur investissement. On a toujours un retour. Et quand les personnes s'en vont, et qu'on a des, parfois des accolades hein, que je ne refuse pas. Hein. Je le délimite éventuellement si ça va trop loin. Mais... Et quand on a ce retour des personnes qui s'en vont, qui vont mieux, qui sont le jour et la nuit par rapport à l'admission, c'est incroyable. Et sur un plan humain, voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu sur un plan humain des choses équivalentes. C'est vraiment exceptionnel. Et même, je vais plus loin, même par exemple des personnes bipolaires, avec qui je peux être en conflit pendant la prise en charge aiguë, parce qu'on délimite l'espace, le cadre, etc. Donc on crée la frustration, on assume la frustration, on reçoit la colère, on reçoit des insultes, des menaces. Mais c'est la maladie qui crée ça. Hein. Et ces personnes, quand elles vont mieux, quand elles redescendent de leur phase maniaque, et quand ces personnes-là vous disent « Ah, mais Eric, merci d'avoir fait ça », et ça, c'est étonnant. C'est, voilà, c'est une émotion incroyable. Je me souviens d'un jour à Lausanne où je monte dans le bus. Et puis il y a une patiente que je n'avais pas vue, que j'avais soignée. Une patiente, une énorme bipolaire. Et qui est venue me voir. Qui allait bien, qui était stabilisée, qui avait un étayage qui permettait de bien la suivre à l'extérieur. Et qui est venue me voir et me remercier. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pareil, hein, à monter, on peut croiser aussi des personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très, très précieuses. Alors, on a ça aussi dans les soins somatiques. C'est tout aussi valorisant. Mais je dirais qu'en psychiatrie, il y a des surprises supplémentaires. Des personnes, peut-être chroniques, peut-être qu'elles reviendront, même des psychotiques qui ont des comportements étonnants et des remerciements étonnants. Lorsqu'ils s'en vont. Bon, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et particulièrement à l'Evo, de par sa structure.
Se découvrir, c'est aussi une leçon que l'on peut voir ici à Malévo. C'était le dernier épisode de cette rencontre avec Eric Giraudet, proposé par Marie-Claude Cudry. Vous trouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Merci Eric Giraudet. Je sais qu'il nous écoute des fois en direct ou des fois en rediffusion. On a eu le droit à 7 opus, si mes souvenirs sont bons, où on a pu passer finalement de son expérience, de ses premiers jours ici à Malévo quand il est arrivé, les différence sur les plus de 20 ans qu'il a perçu entre quand il a commencé, quand il est allé travailler à l'extérieur, ce qu'il a retrouvé aussi, ses perceptions aussi un petit peu de l'évolution de son parcours professionnel et surtout les rencontres incroyables qu'il a faites tout au long de ce parcours. Merci Eric Giraudet en tout cas d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Marie-Claude Cudry. On a parlé dans ce dernier épisode si les gens avait des perceptions un peu plus aiguisées de ressentir les choses, un état comme ça d'esprit un petit peu plus, on pourrait dire une acuité, on parle de cinquième sens, oui. On parle de sixième sens là presque dans ce qui est dit, on a parlé aussi de qui on est en tant qu'humain, de comment on se réajuste, on a parlé d'accolades, de limites, et puis aussi en lien avec les phéromones, qu'on peut avoir peur, violence, insulte, de colère, violence et aussi en versus qu'on peut malgré tout à la sortie d'un état maniaque avoir des remerciements parce qu'on n'est pas la même personne, on est la même personne mais par les prodo-manifestations des fois on peut avoir des comportements mais comment on redescend et comment on remercie, puis aussi quand on se croise à l'extérieur, finalement cette question de quand on recroise un soignant à l'extérieur, finalement quel est ce changement d'attitude, est-ce que cette rencontre humaine va donner naissance à autre chose. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai un peu pris, entendu. Et puis la question, est-il facile selon vous de se remettre en question, Gabriel?
Non. Non, c'est le pire truc, se remettre en question. Sauf quand on... Ouais, non, même pas, raison ou tort, se remettre en question, changer d'avis, je trouve que c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment un truc que les soignants ont besoin de transmettre aux patients d'une manière délicate et stratégique. Changer d'avis. Et puis, je pense pour... c'est pas qu'il y a deux camps, quoi, mais aussi pour les patients, de réussir à faire changer d'avis les soignants. Je me rappelle la dernière fois que j'ai venu, on avait parlé de dire non. Et moi, j'avais dit un truc, je me rappelle, j'avais dit que à moins d'avoir une excellente raison de dire non, il faut savoir dire oui. Et ça, c'est faire changer aussi les soignants de regard par rapport à l'autre.
Bah, merci. Je m'adresse... Alors, Julien, je vous en prie.
Je voulais simplement demander si la remise en question n'était pas liée à des thématiques, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se remettre plus facilement en question que d'autres. Après, il y a des choses qui sont fondamentales de par une éducation, des choses qui sont fondamentales de par des croyances, là où la remise en question est un peu plus compliquée. Puis après, il y a le fait qu'on crée des habitudes en avançant dans le temps. C'est pour ça qu'on fait souvent la comparaison avec les personnes qui sont nos aînés. Ah bah tiens, mais elle ne se remet jamais en question, celle-ci. Et puis, on a l'impression que ces personnes sont brutes, alors que finalement, ben voilà, on peut tous essayer une remise en question d'une manière ou d'une autre.
Moi, je suis d'accord avec vous, Julien, sur la notion de se remettre en question, c'est de se dire finalement, de se redéfinir. La remise en question, c'est pas simplement est-ce que j'ai fait juste, ce que j'ai pas fait juste, comment je pourrais faire autrement. Et c'est surtout de se dire bah, comment je me redéfinis aujourd'hui avec l'échange et les rencontres que j'ai eues, de savoir dire non, de savoir dire oui, ou des expériences aussi, peut-être des fois même dramatiques, on peut vivre, hein, parce qu'il y a des rencontres, il y a des fois des événements qui peuvent nous changer, mais c'est de se dire finalement, avec celui que je suis, comment je me reconstruis avec l'échange que je viens de vivre, avec la période de vie que je viens de passer, qui fait qu'on avance, on grandit. Est-ce que c'est ça, prendre de la maturité? Est-ce que c'est ça? Alors, je vais m'adresser, avant de donner la parole à Elvio, à Bernadette. Bernadette, vous avez travaillé comme assistante sociale tout au long de votre carrière. Vous êtes à la retraite depuis quelques années. Est-ce que...
Depuis
20 ans déjà à la retraite. Oui. Ouais, ça commence à faire... Là, vous savez quoi? Ça ne se voit pas sur vous, hein. Ça se voit pas. Même si les cheveux blancs trahissent un peu. Oui. Hein, mais ça... On ne peut pas louper le poulet rôti du dimanche, exactement. Non. Mais est-ce que les rencontres que vous avez eues tout au long de votre parcours avec les bénéficiaires en soins que vous avez croisés vous ont changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes différente en tant que femme, que mère, que grand-mère, qu'épouse, aussi avec toutes ces rencontres que vous avez eues?
Ah, c'est certain que ça change un petit peu, parce qu'on apporte de la nuance, et puis le travail d'équipe aussi, on discute ensemble, enfin à cette époque-là, on discutait ensemble, donc c'est riche dans ce sens-là pour aider les gens.
Mais du coup, aujourd'hui, vous dites, si je n'avais pas fait ces rencontres-là, je serais...
Ah oui, je ne serais pas la même. Ça, c'est sûr.
Bah, oui. Moi, je suis content en tout cas que vous ayez rencontré toutes ces personnes parce que j'aime celle que vous êtes aujourd'hui.
Ah, voilà.
Elvio.
Oui, je voulais faire écho à Julien tout à l'heure, donc, ce qu'il exprimait assez justement, les influences familiales, l'éducation et tout ça. Et il y a deux fameux pièges justement dans lesquels je n'aime pas rentrer. Je suis très attentif. C'était mieux avant. Déjà, parce que je trouve que c'est pas forcément une vérité. Et le deuxième, c'est pourquoi faire autrement alors que ça a toujours fonctionné comme ça. Je crois que ça, c'est ne pas rentrer dans ces deux pièges, c'est déjà permettre à son esprit de s'ouvrir, en fait.
C'est vrai, s'ouvrir, s'ouvrir. Gabriel.
Oui, je suis ouvert.
Alors, si vous êtes ouvert, laissez couler les vannes.
Oui.
Non, je ne parle pas les vannes de blagues, hein, bien sûr.
Ah, d'accord, ok, pardon. Oui, par rapport au fait de changer d'avis, moi j'aime bien ce que tu dis, le fait de c'était pas forcément mieux avant. Et si on remet le sujet autour de la psychiatrie, là, ouais, clairement, c'était vraiment beaucoup moins bien avant. Voilà, j'ai la chance ou pas d'avoir quelques dizaines d'années de carrière et. On va le dire, un changement d'avis, c'est aussi ça. C'est qu'il y a des trucs, j'ai vraiment un petit peu honte de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu dire à des patients il y a 10 ans, il y a 15 ans. ouais, c'est se remettre en question, de se dire qu'on a eu tort avant et qu'on ne refera pas les mêmes erreurs.
Alors, c'est vrai qu'on a eu une évolution incroyable dans la rencontre à l'autre. Hein. On a d'ailleurs aujourd'hui, on est en train une énième fois de changer aussi notre regard si on parle sur la suicidalité. Aujourd'hui, on parle plus d'aller sur la rencontre de l'autre que plutôt d'aller sur une espèce de surveillance et de la peur du risque de le passage à l'acte.
Alors, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un sujet de pointe actuellement. Il y a un grand changement de paradigme dans les équipes et ce, dans toute la Suisse romande. Jusqu'ici, on essayait d'évaluer, de mesurer, de quantifier le risque d'un passage à l'acte suicidaire. On s'est rendu compte avec beaucoup d'études, même si ce n'est pas facile à prouver, que ça n'avait aucun intérêt, qu'on ne pouvait pas dire pour quelqu'un s'il allait ou pas passer à l'acte. Donc l'idée maintenant est de rencontrer la personne, d'en faire beaucoup plus son allié. Et c'est un changement d'avis. C'est un changement d'avis qui permet de mieux rencontrer le patient parce qu'on ne va pas être dans une espèce de mesure qui est un petit peu paradoxale où on va un peu le contraindre, l'empêcher de faire ceci, de faire cela. Et puis c'est aussi une libération pour l'équipe parce que l'équipe ne se retrouve pas à risquer de se sentir coupable, de réussir à, ouvrez les guillemets, mettre à l'abri la personne d'idées suicidaires. Bon, mettre à l'abri d'idées déjà, mais de s'allier, de rencontrer la personne, de mieux comprendre et puis de faire confiance. Et je pense qu'il y a ça du changement d'avis des soignants profond, c'est qu'ils apprennent à mieux faire confiance aux patients.
Oui, vous avez raison, c'est mieux faire confiance aux patients. Eric le disait en préambule, hein, en début, c'est ils se connaissent très bien. Et je pense qu'il n'y a pas plus expert que celui qui vit. Moi, j'ai appris grâce à ces rencontres. Finalement, j'ai eu une formation d'infirmier généraliste, mais j'ai appris mon métier, c'est vrai, une partie dans les connaissances, dans les compétences à l'école, mais j'ai appris mon métier grâce à la rencontre avec l'autre, avec celui qui vivait ses émotions, qui vivait ses difficultés. Et c'est ça qui m'a permis d'être le soignant que je suis aujourd'hui. Julien.
Là, c'est plutôt moi qui vais vous poser une question à vous, soignant. Est-ce que vous avez des critères, des sonnettes d'alarme que vous voyez chez un patient qui pourrait être susceptible de passer à l'acte quand vous parlez de suicide? Ou est-ce que c'est justement les gens qui en parlent le moins qui peut-être passent plus facilement à l'acte? Avec votre expérience, est-ce que vous arrivez à détecter maintenant quelqu'un qui peut être dangereux pour lui-même à ce point, justement?
Gabriel.
Alors, c'est super comme question. C'était déjà quelque chose qui est un préambule sur le rapport à l'autre par rapport au risque suicidaire. Quelqu'un qui en parle, l'espèce d'idée que puisqu'il en parle, il ne va pas passer à l'acte. Non. Et s'il n'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'il va plus passer à l'acte. Justement, on n'a pas de rapport direct de compréhension de ce qui se passe vraiment dans la tête de la personne. Lui-même, les mots qu'il va nous proposer, on va les interpréter d'une certaine manière. Mais lui-même, les mots qu'il aura dit, il va les trouver comme il peut dans une situation où il est déjà précaire dans sa tête pour pouvoir évacuer des pensées. Donc c'est très difficile de savoir. Alors après, il y a des signes précurseurs. Si par exemple la personne est dans son garage, la voiture allumée avec la porte fermée, ou s'il est en haut d'une falaise, on va peut-être pas se dire ouais, c'est bon, ça passe. Mais il faut se dire que la rencontre de la personne, ce qui se passe dans sa tête, le soignant ne pourra pas forcément le savoir parce qu'on ne lit pas dans les pensées, mais le patient lui-même n'est pas maître du jeu, il va pas forcément pouvoir gérer ce qui se passe. Il y a vraiment une rencontre, il y a un tiers à trouver pour pouvoir rencontrer la personne et lui permettre lui-même d'accéder à ses pensées. Moi, je voulais dire que justement, dans l'idée de faire confiance, c'est aussi un principe du rétablissement en psychiatrie, c'est de se dire que la personne, il faut lui faire confiance sur le fait que ce qu'elle veut, c'est aller mieux. C'est pas tricher ou obtenir des avantages.
Oui. Et puis pour appuyer un peu à votre question, Julien, c'est alors je l'ai déjà cité plusieurs fois, hein, sans vouloir être répétitif, mais l'astrophysicien Albert Jacquard qui dit « personne n'est égaux, de naître et être ». En fait, ça veut dire que sans la rencontre, d'aller au contact de l'autre, bien sûr qu'on peut avoir des indicateurs. On sait que quelqu'un qui va peut-être plus parler, qui sort plus, qui s'isole, qui consomme, on sait qu'il y a des facteurs qui vont peut-être renforcer un passage à l'acte, mais comme des fois on peut avoir aucune information, rien, et puis par une angoisse majeure, ce qu'on appelle le raptus, différent de je prépare, je fais une lettre, j'écris, je fais mes adieux, j'avertis, et puis je passe à l'acte. En fait, c'est c'est difficile de bien pouvoir se dire est-ce que on peut prédire qui ou pas va passer à l'acte, et surtout que finalement on a aussi des fois, comme disait Gabriel tout à l'heure, c'est pas parce qu'on l'a dit qu'on va le faire ou qu'on va pas le faire. Puis des fois on a des gens qu'on prend, qu'on soigne, qu'on traite, et ils ont l'air d'aller mieux, on met en place des traitements qui vont permettre d'aller mieux, puis on a un effet, ce qu'on appelle la poussée de la désinhibition, notamment quand on a la majoration d'antidépresseurs, qui font que les gens n'avaient plus d'énergie, et puis on va leur donner un traitement qui vont leur permettre d'aller mieux, ils vont se sentir mieux, puis d'un coup, hop, l'énergie suffisamment forte pour finalement quand même passer à l'acte. Donc c'est très compliqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien ce changement de paradigme. Aujourd'hui, finalement, c'est vraiment la rencontre individuelle à l'autre, en allant, je vais citer le docteur Marin, qui est un de nos médecins cadres. Finalement, la rencontre de l'autre, c'est un peu une enquête aussi. C'est finalement comment je vais déceler chez l'autre, quelles sont les informations que je vais trouver, quels sont les éléments que je vais réunir à voir, et que d'un travail aussi, comme disait Bernadette tout à l'heure, pluridisciplinaire avec les collègues, qu'il nous faut qu'à un moment on peut dire ok, là on a des choses qui s'activent, oh là on va être un peu plus attentif et on va suivre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas comme ça de guideline qui nous dit maintenant s'il y a tout ça, ça veut dire que on est sûr que non.
C'est une enquête, et c'est une enquête qu'on fait à deux avec le patient, parce que lui-même,
les proches aussi.
Et oui, avec les proches, un peu avec tout son environnement, mais c'est une enquête de l'environnement, etc. Mmh. Ce qu'on arrive à savoir, c'est qu'il y a des facteurs protecteurs, il y a des facteurs précipitants, mais ils vont avoir une mesure statistique sur un grand nombre de personnes. On va se dire qu'il y a une probabilité plus importante. Mais ce qui n'enlève rien de la rencontre individuelle, la rencontre, c'est un des l'acronyme de la façon d'aborder maintenant le suicide. L'individualité de la personne, on ne peut pas la prévoir. On peut essayer d'éviter tout ce qui statistiquement vont charger la personne et favoriser ce qui va l'aider, mais on ne peut pas être certain dans les deux sens pour la rencontre.
Merci messieurs pour vos réponses. Au final, ce que je retiens, c'est que les proches ont aussi un rôle prépondérant dans la sécurisation de la personne et dans l'analyse, et surtout être présent.
Oui, alors, mais par contre, ne sont pas responsables.
Exact.
Attention, parce que c'est très important. La seule personne qui est responsable dans un choix, c'est soi-même. On parlait tout à l'heure du rétablissement, on en a parlé plus souvent, un des piliers, c'est la responsabilité. On doit être là pour accompagner, pour alerter, pour soutenir, mais on ne doit pas se sentir responsable de ce qui finalement la personne décide elle-même de faire ou pas. Elvio.
Voilà, je voulais aussi rendre attentif un peu les auditeurs, tout le monde. Moi, dans mon travail aussi de père praticien, donc d'accompagnant dans le rétablissement, et dans mon entourage, j'ai malheureusement observé une recrudescence aussi de fragilité chez les jeunes. En fait, les jeunes qui sont scolarisés depuis le cycle, on va dire, du moment où avec les smartphones, il y a, malheureusement dans mon entourage, sur 3 ans, j'ai eu 4 décès de jeunes à cause du harcèlement. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et ici, quand je rencontre des jeunes, souvent, on arrive souvent sur ce sujet-là. Voilà, je pense qu'il faut être très attentif. Parce que justement, il y a beaucoup de non-dits en fait aussi. Ouais.
Très attentif, d'être sensible et surtout de rappeler, ne restez pas seul. Vous trouverez sur Internet, sur le réseau Entraide Valais, vous avez le 144, vous avez la main tendue, vous avez Parpa. Il y a plein d'associations qui sont là pour pouvoir vous accueillir, vous écouter et peut-être vous aiguiller dans les structures adaptées. On va passer avant notre dernière partie d'émission, on poussera un petit peu les minutes. Il y avait la dédicace de Joël avec un nom, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir si je bégaye un peu, ça s'appelle Scatterlings of Africa de Johnny Clegg et de Savuka. Pour qui elle voulait dédicacer cette chanson d'ailleurs ? Alors, on va dire que la personne se reconnaîtra ou les personnes se reconnaîtront à tout à l'heure. Jump rooted one. Johnny Clegg et Savouka. Alors ça y est, ça m'a remis dedans. Je me suis dit, mais je connais cette chanson, mais j'avais complètement oublié. Mais par contre, à l'instar de la Madeleine de Proust, comme disait tout à l'heure Julien, ça m'a aussi renvoyé à des souvenirs. Et on va parler maintenant de notre toute petite dernière chronique qui arrive aujourd'hui. On est le 23 avril 2024. Il faut le citer quand même. Hein. 2026. Pourquoi j'ai dit 2024, moi? En fait, vous savez pourquoi? Non, en fait, c'était pour mettre un préambule dans notre nouvelle rubrique qui s'appelle la
Science Fiction.
Science Fiction. J'avais fait une espèce de retour en arrière comme
ça.
Non,
mais j'ai vu que ce titre, il te perturbe. Ouais, mais ouais.
Vous avez vu comment je suis passé dans le temps, oui, quelques secondes, et je suis revenu. Ouais. Gabriel, la parole est à vous.
Oui, alors la psy, le ciné, les psys, c'est raconté, le ciné, c'est raconté, le ciné, c'est mon psy, mais Gab, c'est n'importe quoi, dirais-tu. C'est de la fiction, mais oui, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction, la psy et les psys dans le ciné. Donc à chaque chronique, je vous présente un psychiatre, un psychologue, un soin dans le cinéma. N'oubliez pas, si on écoutait Éric Rohmer, le cinéma ne dit pas différemment, il dit autre chose. Donc, de qui on parle? Devinette.
C'est une merde, votre truc. Peut-être que vous n'aviez pas la femme qu'il fallait.
Peut-être que tu devrais fermer ta gueule.
Il est barbu, il est trapu, on peut être certain que son regard perçant, son sourire en coin va vous comprendre, voire vous foutre à poil. Quand on regarde mieux, il a l'air un peu triste, il a un gilet moche, il est un peu fatigué, mais attention, attention, c'est un chaud, un peu réactif, c'est un nerveux bourré d'empathie, c'est un sac de nœuds, mais aussi une pelote de laine toute douce. Non, ce n'est pas Jimmy Zimmerman, soyez attentifs, j'ai parlé de barbe. C'est Sean McGuire, le psychiatre, le psychologue de l'extraordinaire film Will Hunting. Donc porté par Robbie Williams, qui a son top, comme d'habitude. Le pépère nerveux, mélange d'opposés, il sait ce qu'il est. Et sachant qui il est, il trouvera facilement qui vous êtes et dans le film, surtout, qui vous devez devenir. On y découvre justement ses failles, ses deuils, ses douleurs. C'est le psy de la rencontre, c'est le psy de l'implication, de l'incarnation du soignant talentueux. Lui, c'est un de mes modèles. Moi, je lui donne un 8,5 sur 10. Donc, extrait choisi. Attention, changement de ton direct. Le célèbre « C'est pas ta faute » où on parle de culpabilité, la victime, le sujet, franchement, rarement aussi bien incarné.
Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça, toute cette merde. C'est pas ta faute.
Oui, je le sais.
Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute.
Je sais.
C'est pas ta faute.
Je sais.
Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute.
Je sais.
C'est pas ta faute.
D'accord.
C'est pas ta faute. C'est pas ta faute.
Ne déconne pas avec moi.
C'est pas ta faute.
Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, je... Pas toi.
C'est pas ta faute.
Et voilà, pleure, tu pisseras moins, disait Tati Daniel dans le film éponyme. Mais c'est une autre histoire, et donc je vous dis à bientôt.
Le direct.
Merci Gabriel pour cette première rubrique. Alors réellement, vous m'avez transporté ailleurs dans la quatrième dimension avec le dernier extrait. Là, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. J'ai cru qu'on me parlait à moi et j'ai presque eu des idées de concernement. De dire mais qu'est-ce qui m'arrive?
Ah non, mais la situation en fait, il y a une situation de maltraitance. Le psy a le dossier. Alors il y a un côté comme ça de gradation entre le patient et le psy que le psy d'emblée il va gommer en disant. Vous voulez voir votre dossier? Tiens, regarde-le. Le patient veut pas parce qu'il veut pas, parce qu'il n'est pas bien avec ce qu'il y a dedans, mais il va revenir, il va appuyer sur le bouton. C'est pas ta faute. Il a compris que l'autre se sentait coupable par rapport à ça. Il va réappuyer sur ce bouton pour percer les défenses. Le patient pleure et finalement craque. Et franchement, juste la scène du film, on comprend qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'on retrouve en vrai dans le soin. Et qui est important de pouvoir, même si c'est pas, il n'y a pas que ça dans le soin, je pense que c'est un moment de soin qu'on peut retenir qui est assez réaliste.
assez réaliste. D'ailleurs, je ne sais plus quel groupe de rap ça c'était dans la haine. Il disait « Ayo, ayo, alerte ». À la télévision, la réalité dépasse la fiction. Mais c'est vrai, on peut, y a des choses tout à fait qu'on peut faire des liens entre la fiction et ce qui se passe au quotidien.
Oui, c'est ça. Alors vraiment, bravo, quelle culture. Oui, je ne l'ai pas vu venir. Ben, oui, la fiction, c'est ce que je disais avec, avec Eric Rohmer, la fiction raconte mieux que la réalité, l'intimité des gens. C'est ça l'idée du cinéma et de son lien avec la psychiatrie.
Will Hunting, Elvio, c'est pas le film avec Matt Damon où il est un balayeur des maths.
Voilà,
ah non, c'est pas ça.
Alors en fait, il est balayeur dans une école. Ouais, et c'est un film coécrit avec Ben Affleck en fait.
Voilà, c'est ça, Ben Affleck.
Voilà, parce qu'en fait, c'est des, comment on dit, c'est des frères. Voilà. Ils sont vraiment, ils collaborent énormément ensemble, des vrais amis quoi. On dit des bromances maintenant, je crois.
Alors, je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, ils sont vraiment amis dans la vie privée. Ouais. C'est vrai que le film, ils l'ont écrit ensemble. Mmh. Moi, j'adore parce qu'il y a une autre scène que je voulais mettre aussi, mais qui est pas du tout une scène pour la psychiatrie, où il y a justement Will qui est dans un bar et puis il y a un jeune, qu'on peut dire un jeune péteux, qui veut un petit peu être prétentieux, raconter un petit peu comme il est intelligent, et puis Will qui arrive et qui s'interpose et qui prend la défense de son ami pour intellectuellement faire comprendre à l'autre, bah non, il y a plus fort que toi, il y a toujours plus fort que soi, il faut être humble. Et j'ai trouvé la scène hyper drôle, mais c'était pas tout à fait le propos pour aujourd'hui.
Bah, merci en tout cas pour ce premier opus, cette première pour Science Fiction. Cette fois-ci, je crois que j'ai réussi à le dire correctement, comme Marie-Cole Cudry. Ah ça y est, et moi qui voulais faire le malin en fin d'émission, ça y est, j'arrive encore à me tromper. Je suis désolé, Marie-Claude. Un jour, j'y arriverai. D'ailleurs, ça me fait, c'est pas de la fiction, mais ça me fait penser à un vieux, une série télévisée. Ça s'appelait Palace, où il y avait toujours le maître d'hôtel. Appelez-moi le directeur. Et puis il arrivait, puis il disait un jour, je l'aurai. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités ou nos participants du jour. Un grand merci à Pascal Vigolo à la technique. On se retrouve jeudi prochain. Pas dans le pavillon de studio de Pavillon Nomade. On va se retrouver dans le parc de Malévo à l'occasion de l'élévation du mât de mai. Donc, restez connectés avec nous. Et si vous avez envie de nous voir et participer à cette procession, vous pouvez nous retrouver à partir de 15h30. Ce sera le début ou 15h, je crois.
Je pense que l'idéal, ce serait de venir entre 14h30 et 14h45 à la buvette. Comme ça, c'est là un petit peu le point de ralliement pour le début de cette élévation du mât de mai.
Alors, point de ralliement, 14h30 à la buvette du Malévo Quartier Culturel et notre émission en direct, comme tous les jeudis. On va vivre un moment fantastique. Merci à vous. On se quitte avec la chanson proposée de Johnny Hallyday qui s'appelle « L'envie de... » Mais est-ce que vous avez envie de la dédicacer à quelqu'un, Johnny?
À une infirmière que j'ai connue pendant 30 ans, en passant par Domus, Madame Nathalie Chapin.
Alors, Madame Chapin.
Chapin,
si vous nous écoutez, cette chanson est pour vous.
Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid, pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an, pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne